Vous écoutez France Culture.
Suite et deuxième temps d'une semaine qu'à l'occasion du colloque organisé par la République des idées à la Maison de la Culture de Grenoble les 8, 9 et 10 mai prochains, les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la question de la rénovation de la démocratie. Hier, les Nouveaux Chemins accueillaient le philosophe Jacques Rancière pour y parler de ce qu'il appelle la haine de la démocratie. Demain, nous recevrons le sociologue Dominique Cardon et le blogueur Nicolas Vambremersch, autrement connu sous le nom de Versac, pour y parler de démocratie à l'ère d'Internet. Mais à vrai dire, l'ordre d'exposition n'étant pas toujours celui de la Genèse, c'est avec l'émission de ce soir que notre semaine sur la démocratie commence véritablement, puisque nous vous proposons d'en revenir à l'origine même de la démocratie, à Athènes, lieu souverain de la première et très pure expérience démocratique, celle où tout a commencé, celle, dit-on même, où tout est contenu. Et c'est en compagnie de deux piliers, deux monuments de l'hellénisme français que nous allons passer les 50 minutes qui viennent. Claude Mossé, à qui l'on doit entre autres une remarquable histoire de la démocratie athénienne, disponible au Seuil dans la collection Point Histoire, et Jean Bollack, dont j'ai grand plaisir à citer l'ouvrage sur Empédocle, paru dans les années 60 aux éditions de Minuit. Notre politéia n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État chez nous est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite, et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté et par l'obscurité de sa condition sociale s'il peut rendre des services à la cité. Bonjour Claude Mossé, bonjour Jean Bollack.
Bonjour.
Un grand bienvenue sur France Culture au nouveau chemin de la connaissance à tous les deux. Claude Mossé, le texte que je viens de lire, ce sont des propos de Périclès, en tout cas c'est Thucydide, l'historien, qui les lui prête.
C'est l'oraison funèbre que Thucydide prête à Périclès. C'est un texte évidemment tout à fait remarquable, bien connu de la l'heure qui a été étudié et analysé. C'est une sorte de vision idéalisée de la démocratie athénienne, à la fois une vision réelle, puisque quand Thucydide, puisque c'est effectivement dans Thucydide que l'on trouve ce texte, quand Thucydide fait dire à Périclès que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'Athènes n'a pas emprunté à d'autres, mais qu'elle a inventé en quelque sorte. Et effectivement, ce mot « démocratie », c'est à Athènes qu'on le rencontre pour la première fois, formé de deux racines, « démos », qui veut dire le peuple, et « kratos », qui veut dire le pouvoir. Et donc, un système politique qui implique que le pouvoir est entre les mains du peuple. Mais évidemment, Périclès, ensuite, dans cette oraison funèbre, insiste sur les deux aspects fondamentaux de cette démocratie, qui est d'une part l'égalité, du moins telle qu'elle s'affirme, l'égalité, et d'autre part la liberté. Et en particulier dans toute la partie où il est question de la liberté des Athéniens, on devine à l'arrière-plan une opposition avec, ne pas oublier qu'à ce moment-là, quand il prononce ce discours, on est en plein dans la guerre du Péloponnèse qui a commencé depuis un peu plus d'un an. Et l'ennemi, c'est Sparte. Et donc, effectivement, cette liberté des Athéniens, elle est en quelque sorte opposée à l'absence de liberté qui caractérise, aux yeux des Athéniens, le système spartiate. Quant à l'égalité, elle est affirmée par le fait que tous, effectivement, sont semblables devant la loi. Mais
c'est ce qu'on a appelé l'isonomie.
Exactement, c'était l'isonomie. D'ailleurs, c'est...
C'est l'autre nom de la démocratie, finalement, isonomie. Hein.
C'est ça. Quand Hérodote évoque la création par Clisthène, la fondation par Clisthène de la démocratie, il emploie le terme isonomie, effectivement, qui veut dire égalité devant la loi.
Il faut rappeler que Clisthène précède Périclès dans l'histoire d'Athènes. Non, mais je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas forcément en tête la chronologie de la démocratie athénienne. les réformes de Clisthène qui marquent, c'est vous qui l'a raconté, Claude Mossé, et à ce titre, c'est vrai, l'avènement d'institutions démocratiques à Athènes, ces réformes-là précèdent Périclès de quelques décennies.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et elle se place à la fin du VIe siècle, au lendemain de la chute de la tyrannie des Pisistratides. Et à ce moment-là, donc, s'opère une transformation. Alors, je n'entrerai pas dans tous les débats que pose cette question de savoir... Parce que Clisthène, nous en avons...
Je sens que vous allez y entrer quand même, Claude Mossé.
Oui, je vais y entrer quand même un peu, dans la mesure, si vous voulez, où tous ces événements, nous ne les connaissons que, en gros, en grande partie, en particulier les étapes d'établissement de la démocratie athénienne, essentiellement par le texte aristotélicien ou d'Aristote ou d'un de ses élèves, publié à la fin du IVe siècle. Et donc, c'est une reconstitution de l'histoire, une reconstruction de l'histoire d'Athènes et des étapes qui ont permis l'établissement de la démocratie. Alors, d'abord Solon et la crise solonienne, puis l'établissement par Solon déjà d'un premier code de loi, puis l'épisode tyrannique auquel met fin la réforme ou les réformes de Clisthène, avec en particulier, je n'entrerai pas dans le détail de cette réforme, mais elle a été très longuement étudiée d'ailleurs autrefois par Pierre Lévêque et Pierre Vidal-Naquet, pour s'interroger sur en particulier la nouvelle répartition des citoyens dans un cadre territorial, ce qui autrefois n'existait pas, et de substituer par conséquent à un système qui était fondé sur des liens réels ou imaginaires de parenté, de leur substituer un système de répartition territoriale, qui donc créait effectivement, était un des fondements de cette égalité. Mais le système démocratique lui-même, c'est-à-dire le fonctionnement même tel qu'on peut l'entrevoir, c'est essentiellement, évidemment, au Ve siècle, avec Périclès en particulier.
Alors, pardonnez-moi Claude Mossé, mais c'est tout le sens de la question que j'allais vous poser. Dans quelle mesure l'expérience athénienne, et en particulier le siècle de Périclès, je vous pose cette question à tous les deux, Claude Mossé et Jean Bollac, dans quelle mesure l'expérience athénienne est-elle une authentique expérience démocratique, contrairement à Rome d'ailleurs. On avait reçu Paul Vane l'an dernier au Nouveau Chemin de la Connaissance, qui était très formel sur ce sujet. Rome n'a jamais été une démocratie, jamais. Athènes l'a été, en particulier au siècle de Périclès, peut-être même avant, je me tourne vers vous, Jean Bollac. Donc dans quelle mesure le siècle de Périclès, ou bien même avant, sous Solon ou bien sous Clisthène, Athènes était-elle une authentique expérience démocratique? Et deuxième question, puisque c'est quand même celle qui gouverne cette semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à la démocratie, dans quelle mesure peut-on y trouver comme autant de trésors les linéaments de la démocratie telle qu'on tente aujourd'hui de la vivre ou de la mettre en œuvre, Jean Bollac?
Oui, j'aurais toute une série de remarques à faire. D'abord, je ne suis pas comme Claude Mossé proprement historien, je le suis aussi, puisque si je ne maîtrisais pas les données historiques, je ne pourrais pas déchiffrer ni les systèmes de pensée, ni les textes. Et donc, c'est lié en ce sens. Mais néanmoins, évidemment, plutôt que ce que j'essaye de faire, c'est une historisation de la question même. C'est-à-dire, je me poserai, qu'est-ce que c'est la démocratie, est-ce que celle que nous, qui est attestée, qui est une très grande chose, et puis en même temps, elle est très complexe. Je veux dire que, donc, ce que je veux éviter, et même ce soir, dans ce contexte, disons, de cette semaine, c'est la célébration. C'est-à-dire que, c'est mon point de vue aussi, parce que À travers les textes et disons à travers la reconstitution des systèmes de pensée, et les Grecs ont beaucoup réfléchi sur la démocratie, donc c'est même l'historiographie qui a été avec Hérodote et Thucydide en quelque sorte qui est née là et créée à propos de cette démocratie. Donc le fait même que nous parlions que nous soyons informés et que nous puissions parler de la démocratie est lié à la démocratie, c'est-à-dire à celle qui a permis
un régime qui permettait qu'on réfléchisse
les gens de pareils travaux. Et Thucydide et Hérodote encore plus. Alors je ne diminue en rien Thucydide, mais ce soir, vous m'entendriez facilement dire beaucoup de bien d'Hérodote. Aussi, précisément par la distance qu'il a dans sa façon d'organiser les récits, qu'il garde face à son sujet. Ce n'est pas que Thucydide ne montre pas que Périclès est aussi idéologiquement engagé. Ça, Thucydide nous le montre. Mais précisément, c'est...
Revenons-en, Jean Bollack, à la question de la démocratie. Est-ce qu'on peut parler d'une démocratie avant Périclès ? Et est-ce que la démocratie telle qu'on la connaît sous Périclès, éventuellement avant lui, est-ce qu'on y trouve des éléments aujourd'hui, contemporains ?
Vous avez raison de poser cette question. Et j'aimerais bien un peu élargir les points de vue et donc aussi la dimension historique. C'est-à-dire que cette démocratie athénienne du 5e siècle, elle n'est pas née comme ça. Non, il y a un passé. Alors, et d'autre part, il y a aussi la spécificité d'Athènes. Et d'autre part, il y a les conditions de possibilité, je veux dire, la police, c'est-à-dire les cités-États, dans lesquelles de pareils régimes ont pu... Ce n'est pas un empire, c'est le contraire d'un empire. Alors, il y a d'une part... il y a trois choses, si vous me permettez, simplement d'élargir un peu l'histoire pour mieux saisir l'originalité. Il faut que ce soit vraiment compris pour que l'extraordinaire devienne compréhensible et qu'on évite la célébrité.
Allez-y.
et la célébration. C'est que, premièrement, il y a le 6e siècle, à la fin du 6e siècle, il y a quelqu'un comme Solon, et qui a sa propre grandeur, et qui a déjà contribué à faire quelque chose comme une organisation de la cité, plus juste. Et qui était en même temps un grand poète, c'est-à-dire que là, la culture, et puis, ça se prépare très tôt. Et ensuite, il y a eu un grand tyran. Pisistrate. Et qui si vous vouliez, je fais là une brève interruption. Je veux dire, pour moi, la démocratie, c'est de la résistance au pouvoir. C'est-à-dire, je la définirais même plutôt, toutes ces définitions sont justes, l'isonomie et tout ce que vous dites. Mais je dirais, c'est que, quelque chose qui est le peuple, mais qui est fait, quand même de citoyens, puisse résister au pouvoir ou bien choisir le pouvoir auquel il est, il est prêt à obéir.
Mais justement, Jean Bollack, si la démocratie, c'est la résistance au pouvoir, il arrive parfois, paradoxalement d'ailleurs, que la résistance au pouvoir soit incarné par quelqu'un qui détient le pouvoir.
Et ça, c'est vrai aussi, pour notre France actuelle. S'il y a une actualisation, elle est là.
On va y venir. Avant cela, Solon était élu archonte en 594. Donc vraiment, c'est la nuit des temps. Et lui-même, un peu tel Tocqueville qui a été député, aristocrate, a été amené à convenir quasiment d'une forme de réforme agraire, ce qu'il appelait la levée du fardeau, arrachant des champs, je cite Claude Mossé, les bornes qui concrétisaient l'état de dépendance de leurs propriétaires.
C'est ça qui est important.
Une telle mesure, entreprise par quelqu'un qui avait le pouvoir, peut-elle être considérée comme un acte authentiquement démocratique de résistance au pouvoir,
oui.
Jean Bollack.
Oui, c'est-à-dire que... il y a une dialectique, non ? C'est un pouvoir qui s'organise pour être plus fort que le pouvoir arbitraire. Voilà. C'est-à-dire, naturellement, il y a là une réflexion, une tradition culturelle, une pensée, non ? qui soumet des mesures à la logique. À une logique,
Claude Mossé.
Est-ce que je peux dire... Oui, je pense qu'à propos de Solon, il est certain qu'on sait très mal ce qu'était la société athénienne à la veille des réformes de Solon, c'est-à-dire au début du VIe siècle. Mais il est certain qu'il y avait des inégalités très violentes et en particulier une menace qui pesait sur la masse des paysans qui étaient astreints à verser une partie de leur récolte aux grands propriétaires, c'est-à-dire aux familles aristocratiques qui dominaient la cité. Alors, Solon était lui-même issu de ces familles aristocratiques, c'est certain, mais en l'occurrence, il s'est opposé à ce pouvoir qui n'était pas un pouvoir proprement politique, qui était un pouvoir social et un pouvoir juridique et un pouvoir qui risquait de réduire ces gens à la condition d'esclaves, puisque dans ses poèmes, justement, Solon évoque ces gens qui étaient vendus à l'extérieur et qui avaient même perdu l'usage de la langue attique dans ses poèmes tels que les ont rapportés et Aristote et Plutarque, puisque c'est effectivement par ces deux auteurs que nous connaissons les poèmes de Solon. Et donc Solon s'est opposé, effectivement, alors qu'il était détenteur en tant qu'archonte d'un certain pouvoir dans la cité, s'est opposé au pouvoir de ces grands propriétaires qui menaçaient de réduire en servitude les petits paysans.
Est-ce qu'on peut parler ici plus que de l'émergence de la démocratie, de l'émergence tout simplement du politique, hein ?
C'est plutôt l'émergence du politique que de la démocratie, car en réalité la démocratie, au sens où le démos, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens athéniens réunis en assemblée, exerce effectivement un pouvoir souverain, c'est-à-dire un pouvoir de décision, on ne le voit fonctionner véritablement qu'au 5e siècle. Avant le 5e siècle, et même, on peut dire qu'au début du 5e siècle, il n'y avait probablement pas de très nombreuses réunions de cette assemblée du peuple.
On va y venir, on va en parler. Restons un instant sur ce mot. Jean Bellac, on peut parler émergence de la démocratie ou du politique
Voilà, c'est très intéressant. Ce que moi, je dirais que Solon, ce qu'il crée, c'est une organisation de la cité, une politéia.
Exactement.
Une politéia. Voilà. Et c'est déjà énorme. C'est ça, ça rejoint, disons, cette réflexion, cette logique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la police. Mais il y a quand même quelque chose qui va être le démos. Et alors maintenant, je saute. Et je ne pas, ou plus exactement, je ne vais pas sauter. Il y a ça à la fin du 6e siècle. Du 7e siècle.
S'ensuit une tyrannie.
Oui, du 7e siècle, et donc il y a le 6e siècle. Et le 6e siècle, il y a une grande tyrannie. Alors je reviens à mon Hérodote, et même en préparant cette émission de ce soir, j'ai relu certains de mes textes d'Hérodote, et je me suis dit que j'ai mis toute ma vie à les comprendre tellement c'est fort. Je plaide ce soir. Je veux dire que c'est
Vous êtes dans la célébration d'Hérodote.
Non, pas célébrer. Non, mais je dis, c'est au-dessus parce que on se demandait, les historiens se sont beaucoup demandé si ce que dit Hérodote est exact aussi, ou quelle était sa documentation et comment ce qu'il avait fait pour savoir tout ce qu'il a fait. Alors ça, c'est vrai qu'il l'utilise et qu'il a fait donc des voyages et tout ce qu'on veut, non, pour amasser ses connaissances. Mais en même temps, il en fait un récit. Et un récit au sens profond, au sens littéraire, c'est-à-dire avec tout ce que cela permet de liberté et de précision. De liberté dans la précision et de précision dans l'organisation du discours. Alors, quand on lit ce qu'il dit de Pisistrate, c'est prodigieux. Parce que ce Pisistrate est coupé en trois. Il est une première fois, il prend le pouvoir avec une bande de gens, évidemment, qui le soutiennent, comme ça a régulièrement lieu. Et lui aussi, Hérodote, il n'est pas toujours mieux placé que nous, parce que nous avons des siècles obscurs. Et bien, Hérodote aussi, il devait raconter pour, comme ça pouvait à peu près avoir été. Non, c'est-à-dire que là, c'est ça ce qu'il y a de magnifique. Alors, première phase, il est là. Et il laisse les choses plus ou moins en place. Donc, il y a quelque chose qu'on peut appeler peuple, démos, et il n'y touche pas trop. Donc, il n'abolirait pas proprement Solon. Et alors, à certains moments, il est quand même détrôné, il est exilé. Et ça se répète une deuxième fois. C'est absolument génial de la période. Il part de nouveau. Et il revient. Et de nouveau, il s'arrange plus ou moins pour laisser les choses en place. Et donc, pour ne pas exercer une tyrannie absurde. Et donc, telle que Hérodote sait la décrire, non ? Orientale, si vous voulez. Parce qu'il s'agit toujours de pouvoir. Il est de nouveau chassé. Il va de nouveau en exil, mais cette fois-ci, cet exil dure longtemps. Il voyage, il va aussi en Sparte, et il réunit autour, il voyage dans toute la Grèce pour réunir donc une compagnie qui lui permette véritablement de revenir à Athènes et de prendre un pouvoir à lui, personnellement, avec des étrangers. Et alors, Hérodote, il dit, alors, il y avait peu d'Athéniens, là, dans les gens qui l'entouraient, c'était une chose étrangère.
Non, il avait recruté des mercenaires.
Et ça traverse, figurez-vous, que c'est la préhistoire de la démocratie.
Ça veut dire que la préhistoire de la démocratie, c'est la prise du pouvoir.
Dialectiquement, pardon. Puisque c'est contre cela qu'ensuite les Clisthènes ou les Éphiales, tout ça...
Bien sûr. Mais les méthodes de Pisistrate étaient quand même très intéressantes, enfin du moins dans le récit d'Hérodote et dans les récits que nous en avons, parce que la façon dont il se rapprochait de telle ou telle grande famille, en particulier Mégaclès, l'Alpéonide, la façon dont il a les relations avec son épouse... Alcméonide, dont il n'a pas fait véritablement son épouse,
oui.
etc. Enfin, toutes sortes d'histoires que Hérodote, avec plaisir, rapporte pour expliquer comment il a été obligé de repartir une deuxième fois, et puis enfin comment, une troisième fois, il est revenu en recrutant des mercenaires, effectivement des gens qui étaient extérieurs. Le personnage de Pisistrate est certainement un personnage passionnant et intéressant et à étudier, mais...
Laissons de côté les Pisistratides. Attendez, Jean Bollack, un instant. Laissons de côté les Pisistratides, car le temps passe, hein, et qu'on mentirait par omission à nos auditeurs si, dans une émission sur la démocratie athénienne, nous n'abordions pas, nous ne parlions que des tyrans, effectivement. Pour mémoire, hein, nous avons la constitution de Solon en 594, la tyrannie des Pisistratides, qui dure 50 ans, hein,
oui,
à peu près.
Avec les interruptions qu'on a
entendues, les réformes de Clisthène, puis un essor de la démocratie à Athènes, mettons sous Périclès. C'est de Périclès qu'on va parler ensemble aujourd'hui.
Mais attendez, c'est ça dont je voulais... Mais Jean Bollack, attendez... qu'on quitte le VIe siècle pour deux ou trois raisons que j'aurais vite dit.
Mais il va falloir qu'on le quitte quand même, allez-y.
Sans retarder, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tyran. Il s'agit des Athéniens, c'est-à-dire tels qu'ils se sont constitués et maintenus, tels qu'ils ont résisté à la tyrannie, non, pour que la démocratie puisse avoir lieu plus tard. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai fait la préhistoire. J'ai dit que sans ce qui s'est passé. Il y a plusieurs choses. Il y a quand même une activité culturelle. Non, d'abord, il y a une activité sociale, il y a une activité commerçante, etc., qui se développe. Je veux dire, ce VIe siècle athénien n'est pas simple. Il y a de grandes choses qui se font.
Donc, à sa source, Jean Bollack, ça veut dire qu'à sa source...
Les poèmes homériques ont été réunis à Athènes et puis on a organisé des concours en plein VIe siècle. La tragédie athée qui est très vite, n'est-ce pas, donnée des Échilles, a été créée dans ce monde-là.
Jean Bollack, est-ce que je résume conformément les choses à votre pensée conformément à ce que vous en dites, si je dis que les trois ferments de la démocratie athénienne, c'est-à-dire qui précèdent l'avènement de Périclès, sont le commerce, la culture et la résistance à la tyrannie.
Oui, et naturellement aussi, ils sont tous aussi des soldats. Et il faut... parce que nous, modernes, nous ne pouvons pas voir ce que c'est qu'une... Non, voilà. Les citoyens, ils sont les citoyens. Mais non, ils sont... ils ont une capacité militaire aussi.
Alors, on va passer à Périclès. Et avant cela, je voudrais avoir votre sentiment sur ce que disait François Châtelet, le génial François Châtelet, dans les après-midi de France Culture. On est le 9 juin 78. La date n'a pas grande importance au regard de ce qu'il dit. François Châtelet qui revient sur la lecture de l'épisode athénien, de l'aventure athénienne, la façon dont il faut le lire, et qui revient également, et c'est là-dessus que je voudrais avoir votre sentiment, sur la tentation peut-être presque snob qui consisterait à appliquer terme à terme les motifs de la démocratie athénienne au système que nous connaissons aujourd'hui. Voici ce que François Châtelet en dit.
Je crois qu'il faut bien se mettre en tête qu'il n'y a pas de leçon de l'histoire. Chaque situation d'une nation, chaque situation d'un peuple est singulière et doit être résolue par ce peuple même. nous ne pouvons pas espérer pouvoir tirer du passé quelque chose qui pourrait être appliqué aujourd'hui. Aussi bien, si l'on se met à réfléchir sur la manière dont les Grecs ont envisagé et pratiqué la démocratie, je crois qu'il faut emprunter leur direction d'esprit, leur thème de pensée, et non pas du tout les solutions elles-mêmes. C'est plutôt leur mentalité d'ensemble à traiter le problème de la politique et du politique qu'il s'agit de faire. C'est à cela qu'il faut essayer de se dévouer avec précision, et non pas à essayer de trouver ce qui est encore vivant des Grecs parmi nous.
Jean Bollack et Claude Mossé sont nos invités aujourd'hui. Ce mardi, dans une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à la question de la démocratie, c'est en amont de la démocratie elle-même, ou en tout cas à ses origines, que nous allons aujourd'hui, puisque c'est d'Athènes que nous parlons. Et après avoir fait la préhistoire d'Athènes, la constitution de Solon, la tyrannie des Pisistratides et les réformes de Clisthène, on en vient au siècle de Périclès lui-même. Mais avant cela, je voudrais avoir donc votre sentiment sur ce qu'on vient d'entendre. François Châtelet dit « Il n'y a pas de leçon de l'histoire, on n'exporte pas le passé. » Et l'usage qu'il faut faire des Grecs, c'est emprunter leur direction et les thèmes de leur pensée, plus qu'appliquer terme à terme, finalement, ce qu'ils ont construit. Claude Mossé, vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis tout à fait d'accord, parce que je pense qu'il faut maintenir la distance entre nous aujourd'hui et les Athéniens du 5e siècle ou du 4e siècle, tels que nous pouvons deviner ce qu'était leur comportement, ce qu'était leur réaction. Il est certain, par exemple, que on ne peut pas parler de l'avènement de la démocratie à Athènes sans prendre en compte les transformations qui ont pu caractériser la société, les relations, par exemple, la pensée, l'évolution de la pensée, la relation avec les cultes des dieux, etc. Donc, il me semble qu'on est obligé de resituer cette démocratie athénienne dans un certain type de société. Et dans ce type de société, il y avait évidemment des groupes qui étaient dans la population de l'Attique exclue du fonctionnement du politique. Et donc, c'est seulement ceux qui faisaient partie de la police, de la cité, les citoyens, les politailles, c'est seulement eux qui pouvaient prendre en main leur destinée et, disons, leur pouvoir.
Mais Claude Mossé, pardonnez-moi, est-ce qu'un tel modèle aujourd'hui, contrairement à ce que dit Châtelet, donc, n'est pas tout simplement exportable ? Est-ce que, par exemple, alors je ne sais pas le degré de familiarité qui est le vôtre avec Internet, par exemple, mais est-ce qu'un outil comme celui-là ne ressuscite pas la tentation que l'on pourrait avoir, eh bien, tout simplement d'être l'auteur du pouvoir, être soi-même son propre gouvernant, en somme de ressusciter la démocratie directe ?
C'est-à-dire que c'est le problème, effectivement, du rapport entre la démocratie directe et celle que nous connaissons, c'est-à-dire qui est une démocratie représentative et où par conséquent il y a bien entendu l'intermédiaire entre les citoyens, disons, qui aujourd'hui constituent, bon, il n'y a plus de distinction entre hommes et femmes, etc., mais entre les citoyens et le pouvoir. Et il est certain que si la démocratie se limite par exemple, à un vote tous les 4 ans, pour prendre un exemple, ou tous les 5 ans, ça ne peut pas être véritablement une participation directe. C'est le fameux problème de la démocratie participative. Alors, il est certain que le problème peut se poser aussi pour les Athéniens, car il ne faut pas se faire d'illusions. Tous les Athéniens ne participaient pas. Même s'ils avaient le droit de se rendre à l'Assemblée, tous ne s'y rendaient pas. Il y avait peut-être 30 000 citoyens athéniens, par exemple, au 5e siècle, et on sait que la colline de la Pnyx, où se tenaient les réunions de l'Assemblée, pouvait contenir, en gros, environ 6 000 personnes.
Comment expliquez-vous, c'est très intéressant ça, Claude Mossé, parce que dans la démocratie en Amérique, Tocqueville nous tient compagnie toute cette semaine de réflexion sur la démocratie, et dans la démocratie en Amérique, pour expliquer ce que c'est que la tyrannie de la majorité, Tocqueville explique qu'en Pennsylvanie, les Noirs ont le droit de vote, mais qu'ils ne se rendent pas aux urnes. Pourtant, ils ont le droit de le faire. Mais le fait d'avoir le droit de le faire est peu de choses au regard du droit qu'ils se sentent ou qu'ils ne se sentent pas de le faire. Est-ce qu'on peut comprendre selon un modèle comparable ce que vous dites maintenant
le... Je crois qu'on peut le comprendre selon un modèle comparable parce que, effectivement, si on lit par exemple le théâtre d'Aristophane, on voit que les citoyens qui se rendent au théâtre, hein, parce que le théâtre, ça fait partie des fêtes en l'honneur de Dionysos, et donc les citoyens s'y rendent, et on ne peut pas comprendre le théâtre d'Aristophane si on ne prend pas en compte le fait que justement c'est un théâtre qui s'adresse à des citoyens. Et on voit très bien que dans certaines des comédies d'Aristophane, par exemple, les paysans se plaignent de pas venir, que le pouvoir en fait est entre les mains des démagogues ou entre les mains des gens de la ville ou entre les mains, etc. Il y a donc certainement des choses à prendre en compte quant aux réalités de cette démocratie, mais il n'en reste pas moins que effectivement c'était une démocratie directe et elle s'exerçait par conséquent. Enfin, théoriquement, chacun avait le droit de prendre la parole. De fait, il y avait des orateurs professionnels. C'est toujours la même chose. On se trouve en présence à la fois d'une réalité qui était plus complexe qu'une espèce de vision simpliste si on ne s'appuie que sur les informations.
Le problème que vous pointez ici, Claude Mosset, se cristallise autour de la figure des sophistes, Jean Bollat, qui pouvaient prendre la parole, faire le deuil de la vérité et par conséquent consacrer là aussi le triomphe de l'éloquence et la loi du plus fort.
Je dirais que, alors, pour reprendre la question de la distance, ça, naturellement, c'est distant, c'est distant. Et alors, moi, évidemment, je m'intéressais tellement depuis, disons, deux ou trois décennies à la tragédie grecque, parce que il y a une actualisation possible, forte. Mais la mienne, telle que je la conçois, précisément, essaye de supprimer la distance et de montrer que ce qui est le plus éloigné, à condition de le comprendre bien et non pas dans une adaptation, disons pour ne pas répondre à des attentes, mais en laissant parler véritablement les gens, on a de quoi actualiser.
Par exemple
On pourrait parler même de choses archi-connues comme Antigone, c'est dur pour voir.
Alors parlons de Sophocle, en peu de mots.
Parlons par exemple de Sophocle, mais je voudrais, c'est bref, mais préciser que, évidemment, dans ce que nous appelons une démocratie, directe ou indirecte, il y a des factions. Il y a d'abord les familles, et donc les oligarchies ou les pays où il y a une oligarchie, évidemment ça a aussi plusieurs raisons, mais c'est très souvent. Et Athènes a joué un grand rôle dans l'histoire, aussi dans celle que nous reconstituons, que celle des familles. Et c'est un peu comme la Renaissance italienne, je veux dire, ça c'est des... Et ensuite, il peut y avoir des factions lorsque les familles ne règnent plus, mais les démagogues, c'est-à-dire en effet des gens qui exercent un pouvoir à l'intérieur, disons, du kratos du peuple.
Est-ce que vous trouvez Jean Bollat?
Alors, il y a toujours résistance au pouvoir.
Est-ce que vous trouvez Jean Bollat un équivalent contemporain à ce devenir factionnel de la famille, en somme? Est-ce que vous trouvez aujourd'hui un équivalent contemporain au fait que, à cette métamorphose, finalement, des familles en factions?
Oui. C'est économiquement, c'est dépassé évidemment par le développement économique. Je pense que, évidemment, les familles, c'est difficile cette question. Les familles jouent toujours un rôle, non? On sait bien que dans un pays comme la France, le patrimoine reste plus ou moins dans les mêmes mains, non? Les choses continuent à aller de père en fils. Mais je n'ai pas répondu à votre question, donc reposez-la.
Le sens de la question, c'est tout simplement quel est le statut de cette distance. C'est-à-dire, là encore, dans quelle mesure est-ce que, sous Périclès, on trouve... comment comprendre, l'histoire de Périclès.
Vous prenez Antigone, 2 minutes. Là, on va un peu prendre un problème. Je pourrais aussi faire la démonstration sur ce que nous venons de traduire, comme par exemple les Éuménides, ou comme ça. Mais non, prenons Antigone. Alors, il y a un roi, et un roi plutôt constitutionnel, qui est Créon.
Créon.
Et qui a contre lui une fille qui, on pourrait dire, est plutôt anarchique. Alors, Antigone n'est pas du tout une héroïne ni une Jeanne d'Arc, ça je l'ai assez montré, c'est-à-dire c'est la raison même, disons, de mon livre et de la traduction, de montrer ce qu'elle est. Alors, elle sait qu'elle peut s'appuyer sur des sentiments qui règnent dans le peuple contre le roi. Et donc, elle est une révoltée. mais elle sait qu'elle le payera avec sa mort, et puis elle le fait pour donc empêcher Crayon d'être rationnel.
Rappelons pour d'être mémoire. Rationnel, rappelons, Jean Bellac, pardon, un instant. Rappelons pour mémoire à l'auditeur qu'Antigone a voulu, contre les lois édictées par Créon, ensevelir celui de ses deux frères que Cléon avait arbitrairement choisi de ne pas ensevelir, c'est-à-dire Polynice.
Oui.
Antigone a choisi de faire ça. Elle est donc allée contre la volonté de son oncle, Créon, qui, par là même, n'avait aucun autre choix que celui de la condamner à mort, et elle a été murée vivante, emmurée vivante.
À la fin, elle le sera. Mais avant de l'être, surtout... c'est après la scène où le fils de Créon a pris parti pour Antigone.
Aimon.
Il y a une scène extraordinaire où Antigone sort là, et puis elle doit être conduite en effet dans cette prison que vous dites. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle s'explicite. Voyez, c'est-à-dire que ce que je voulais répondre à François Châtelet, c'est-à-dire que ce que pour moi il y a de plus vivant et qui résiste encore, non pas au pouvoir mais au temps, c'est une réflexion, non pas le politique, mais une réflexion sur le politique, une réflexion sur le pouvoir, sur ce qu'il est. Et alors, Antigone, elle sait s'expliciter en dialogue avec le cœur. Et finalement, là, je fais bref, elle prononce un discours qui pourrait être de Périclès ou de Thémistocle. En pur dire, voilà, maintenant je vais dire ce que j'ai à dire. Et elle, alors figurez-vous, la puissance, n'est-ce pas, de cette invention dramatique que de faire d'Antigone, au moment même où elle va être conduite là dans son cachot, de la faire. Alors elle monte sur la tribune et elle parle comme si elle était un grand orateur politique et public. Mais c'est merveilleux parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle analyse le politique. Et c'est vrai, je pourrais faire la même démonstration, je pourrais faire la même évocation. Et c'est ça qui traverse les siècles. C'est-à-dire une situation historiquement donnée sur laquelle il y a une réflexion qui, elle a une puissance qui traverse.
Périclès avait de l'influence en raison de la considération qui l'entourait et de la profondeur de son intelligence. Il était d'un désintéressement absolu. Sans attenter à la liberté, il contenait la multitude qu'il menait, beaucoup plus qu'elle ne le menait. N'ayant acquis son influence que par des moyens honnêtes, il n'avait pas à flatter la foule. Grâce à son autorité personnelle, il pouvait lui tenir tête et même lui montrer son irritation. Chaque fois que les Athéniens s'abandonnaient à contretemps à l'audace et à l'orgueil, il les frappait de crainte. S'ils s'effrayaient sans motif, il les ramenait à la confiance. Ce gouvernement portait le nom de démocratie. En réalité, c'était le gouvernement d'un seul homme. Comment faut-il comprendre, Claude Mossé, ce jugement que porte Thucydide sur Périclès, qui à la fois donc est l'icône, l'image, l'idole presque, démocratique par excellence, et qui en même temps est présenté par Thucydide comme presque un autocrate, le gouvernement d'un seul homme, pourtant à l'endroit duquel il ne cache pas son admiration.
Oui, bien sûr, mais parce que ça rejoint tout à fait la position de Thucydide. C'est-à-dire que Thucydide n'est pas hostile à la démocratie en tant que telle, mais hostile à... Le personnage qu'il oppose ensuite à Périclès, c'est Cléon, le démagogue Cléon, contre lequel aussi se déchaîne Aristophane dans Les Cavaliers ou dans quelques autres de ses comédies. Donc, il admet le système démocratique à condition qu'il y ait un homme comme Périclès, ouais, qui soit capable de conduire le peuple, d'éviter justement les dérapages, d'éviter ou de mettre en question dans une certaine mesure le principe majoritaire. Parce que vous avez fait allusion tout à l'heure à propos de Tocqueville justement à ce principe majoritaire. Ce principe majoritaire...
C'est ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité, ce qu'on a appelé à sa suite tyrannie de la majorité.
C'est en même temps un des fondements de la démocratie. Car la démocratie... implique ou impliqué, et c'est en cela que les Athéniens effectivement étaient ont donné non pas un exemple mais ont construit quelque chose d'original, à savoir que quand il y avait un débat devant l'Assemblée, il y avait après un vote. Alors évidemment, ce vote était un vote à main levée. Et ça, ça nous pose problème. Comment pouvait-on compter les voix?
Autant de transparence ne convient guère à la chose démocratique, Claude Mossé. Le vote à main levée expose celui qui ne lève pas la main à la vindicte publique et à ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité.
En même temps, effectivement, il y a cela. Mais en même temps, une fois le vote acquis à la majorité, fut-elle extrêmement étroite, et on a l'exemple par exemple donné par Thucydide du fameux vote sur l'affaire des gens de Mytilène. Mytilène s'était révoltée contre la domination athénienne, car Athènes exerçait quand même un empire sur une grande partie du monde grec, à la faveur du rôle que les Athéniens avaient joué pendant les guerres médiques.
De là les guerres du Péloponnèse, d'ailleurs.
De là la guerre du Péloponnèse. Et quand les gens de Mytilène s'étaient révoltés contre cet empire, Cléon, justement, qui avait fait décider par l'Assemblée, grâce à son éloquence, le vote de la mise à mort de tous les Mytiléniens, après la chute de Mytilène. Et le lendemain, l'Assemblée était revenue sur cette première décision, et finalement à un vote emporté par une très courte majorité, il avait été décidé d'épargner la majorité des gens de Mytilène. Et donc, l'ensemble des citoyens s'était incliné devant, effectivement, cette très faible majorité. Parce qu'il faut bien dire que la tyrannie de la majorité, d'accord, mais comment autrement prendre position dans un système démocratique?
Mais madame, bien sûr, c'est la tyrannie de la majorité sous la forme, quand elle s'exprime sous la forme du vote, mais quand elle s'exprime sous la forme d'une pression implicite qui finalement demande à tel ou tel homme de ne pas se conduire comme il voudrait le faire et au nom de la liberté le censure implicitement, c'est à cet instant-là qu'on est toujours en démocratie, mais qu'en même temps on est là dans ce qu'on pourrait appeler une pathologie de la démocratie. Est-ce que les Grecs ne fournissent pas la formule de ce dévoiement du suffrage en tyrannie de la majorité?
Oui, attendez. J'ai parlé tout à l'heure de résistance au pouvoir. Mais ça, c'est évidemment, le pouvoir est quelqu'un qui veut l'assujettissement. C'est contre la soumission. C'est ça le grand discours anti-médique, anti-asiatique des Athéniens. Qu'est-ce qui distingue les empires? Alors, c'est une autre question que nous ne pouvons pas, approfondir au fond ce soir. C'est-à-dire, quelle est la relation entre cet empire que les Athéniens construisent et celui contre lequel ils se sont imposés et non, qui leur a permis, au fond, de survivre?
Mais moi, je voudrais en revenir à la tyrannie de la majorité.
Parce qu'ils sont entourés d'empires.
Oui, mais laissons de côté la question impériale, car il reste 10 minutes. Je voudrais en revenir à la tyrannie de la majorité. Dans quelle mesure est-ce que les Grecs, le système électif des Grecs, cette démocratie directe, dont peut-être on peut décrire d'ailleurs rapidement les structures. Comment les Grecs, est-ce qu'on peut trouver chez les Grecs le premier exemple d'un dévoiement du suffrage universel en tyrannie de la majorité?
Oui, c'est-à-dire, je pense que le vote, c'est le peuple. Que ce soit mythique ou idéologique, mais à partir du moment où il y a une majorité, c'est le peuple qui s'est exprimé à travers cette majorité. Et ça, ce n'est pas qu'en Grèce.
Oui, mais quand le peuple condamne Socrate à mort, par exemple,
condamne Socrate à mort, il faut faire très attention.
Je vais le poser autrement. Quand le peuple souscrit à la version qu'Aristophane donne de Socrate dans son ensemble et par conséquent comprend cette décision.
Il faut mettre à part, si vous voulez, le système judiciaire athénien avec l'Assemblée. Ce sont les tribunaux. Les tribunaux qui sont effectivement des tribunaux populaires, c'est-à-dire recrutés par tirage au sort parmi tous les citoyens de plus de 30 ans, etc. Bon, c'est un tribunal de ce genre qui a condamné Socrate. Pour ce qui est d'Aristophane et de la condamnation de Socrate par Aristophane...
Rappelons qu'Aristophane avait fait de Socrate une vision tout à fait caricaturale, dans les nuées, le présentant la tête dans les étoiles.
Absolument, et dans l'Apologie, il est bien question, dans l'Apologie de Platon, il est bien question précisément de ce tragique, cet auteur de comédie plutôt, qui a présenté de Socrate une image désastreuse. Alors, est-ce que cette image de Socrate, effectivement, a joué un rôle dans le vote qui ensuite a été fait par le tribunal? Moi, je ne sais pas, je ne me prononcerai pas. Voyez, j'hésiterai parce que les nuées ont été jouées, je ne sais plus la date exacte des nuées, mais ça doit être autour de 420, peut-être quelque chose comme ça. Et le procès, c'est 399. Et dans ce procès de Socrate, il y avait effectivement, c'est au lendemain d'une révolution oligarchique qui avait entraîné la chute de la démocratie, le conflit entre une minorité d'oligarques et le peuple. Le démos, alors à ce moment-là, effectivement, qui avait d'ailleurs associé, car c'est très intéressant de revenir sur cette affaire-là, car c'est au Pirée que s'étaient réfugiés les démocrates. Et donc, étaient mêlés aux citoyens des gens qui n'étaient probablement pas citoyens et qui ont participé. Rien que les descriptions que donne, par exemple, Xénophon, de la façon dont ça s'était fabriqué, des boucliers en osier ou en n'importe quoi, enfin, qui prouvaient que ce n'étaient pas de vrais soldats, ce n'étaient pas des vrais hoplites, eh bien, ils ont donc repris, en quelque sorte, le pouvoir. Et il y a eu un accord, cette fameuse entente, au Monoya, qui a été décidé après la restauration démocratique. Et c'est au lendemain de cette restauration démocratique que se place le procès de Socrate. Alors, le problème, c'est là. Pourquoi ? Pourquoi ce procès ? Puisqu'on avait dit qu'on oubliait le passé, que maintenant il n'y avait plus de... Alors que, parmi les accusations formulées contre Socrate, c'était précisément d'avoir eu parmi ses disciples des gens qui s'étaient trouvés impliqués dans cette révolution oligarchique. Donc, vous voyez, c'est très
Jean
compliqué.
Jean Bollack.
Deux choses. Même trois. Premièrement, je reviens un instant à Périclès, c'est-à-dire la monarchie. Et il y a aussi le fait que c'est le pouvoir qui s'exerce sur le peuple. Et ça, c'est très important de le voir. Lorsque j'ai dit on résiste au pouvoir lorsqu'il ne vous permet pas de vivre honnêtement. Mais sinon, évidemment, on le suit. Et donc... il y a nécessairement dans l'exercice d'un Périclès un principe de pouvoir pur, c'est-à-dire en accord avec le peuple, c'est-à-dire qu'on convainc le peuple pour avoir ce pouvoir. Et c'est effectivement monarchique. Deuxième précision que je voudrais dire. Le personnage qui s'appelle Socrate dans les nuées, et naturellement choisi parce que Socrate avait ce prestige, disons, dans la ville, mais c'est un, il incarne simplement l'intellect, l'histoire de l'enseignement, de la science, du savoir, quel qu'il soit, même pythagoricien. C'est un personnage de comédie.
Mais c'est en cela,
Jean
Bollack, justement, il dit que le bourgeois n'est gentilhomme, on a bien compris. Mais, oui. Mais c'est en cela, justement, que se pose la question de la tyrannie de la majorité, puisque à la vérité du Socrate réel, s'est substituée l'image, c'est-à-dire l'opinion. Et Dieu sait si Socrate lui-même a ferraillé contre l'opinion tout au long de son enseignement.
Oui.
S'est substituée l'image, l'idée reçue de Socrate, qui peut-être, en un sens, alors sans lui coûter la vie, a fait que finalement l'ingestion de la ciguë est passée comme une lettre à la poste.
Je ne mets pas nécessairement ça en relation, vous pouvez le faire. Je veux dire que les gens qui ont vu les nuées ont peut-être compris de quoi il s'agissait. C'est-à-dire, il était plutôt, si vous voulez que je vous dise ce que c'est-à-dire ce à quoi Aristophane se prend là, et c'est à l'intelligence, aux intellos. Il est l'intellotype. Et alors, quel est son rôle dans la cité et qu'est-ce que c'est que ce frontisterion, non, ce pensoir ? D'autre part, je ne voudrais pas que nous nous séparions sans qu'on voit qu'Athènes est d'une part au centre de la Grèce, et de l'autre côté, elle ne l'est pas. Et que si on prend, disons, l'ensemble de la vie intellectuelle, philosophique, aussi tout ce qui s'est fait avant Platon et Aristote en Grèce, ça s'est fait d'abord en Ionie, et puis ensuite beaucoup en Sicile et en Italie du Sud. Or, ça, c'est une influence très très forte et très importante qui est pythagoricienne. Et comme si on pense par exemple à ce qu'on lit dans la biographie d'Empédocle, il s'est formé, il y a eu des cités avec des formes de tyrans, comme Théron ou d'autres, n'est-ce pas, en Sicile, contre lesquels se sont constitués des groupes d'intellos, précisément ce que on peut penser que Aristophane aurait peut-être combattu, qui se sont formés là pour créer une contre-société, quelque chose qui est beaucoup plus proche, disons, de Tocqueville, qui lui-même hérite du XVIIIe siècle et, disons, des Lumières. Voilà. Alors, il ne faut pas. Alors, il y a des situations en Grèce où il y a une opposition très très forte contre le gouvernement, quel qu'il soit, contre lequel, en tant que pouvoir, on ne peut rien, et contre lequel on crée des modes de vie et des modes de pensée distincts et qui sont, en général, non pas populaires, mais appartiennent à l'aristocratie aussi.
Nous savons concilier le goût du beau avec la simplicité et le goût des études avec l'énergie. Nous usons de la richesse pour l'action et non pour une vaine parade en parole. Chez nous, il n'est pas honteux d'avouer sa pauvreté, il l'est bien davantage de ne pas essayer de l'éviter. Les mêmes hommes peuvent s'adonner à leurs affaires particulières et à celles de l'État. Les simples artisans peuvent entendre suffisamment les questions de politique. Seuls, nous considérons l'homme qui n'y participe pas comme un inutile et non comme un oisif. C'est par nous-mêmes que nous décidons des affaires, que nous nous en faisons un compte exact. Pour nous, la parole n'est pas nuisible à l'action. Ce qu'il est, c'est de ne pas se renseigner sur la parole avant de se lancer dans l'action. C'est Périclès qui parle. Un grand merci Claude Mossé et Jean Bellac. Il y aurait là-dessus mille choses à dire, comme dit Voltaire, et il faut pourtant nous en tenir là. Claude Mossé, vous êtes historienne, professeur émérite à Paris 8, spécialiste de la Grèce antique. Jean Bellac, vous-même philologue et philosophe, fondateur du Centre de recherche philologique à Lille, spécialiste de l'hellénisme. Tout cela, on l'avait compris, et c'est de démocratie athénienne que nous venons de parler ensemble. À ce sujet d'ailleurs, je renvoie Claude Mossé, hein, l'auditeur, à votre livre « Histoire d'une démocratie, Athènes » dans la collection Point Histoire. Et je renvoie Jean Bellac à vos trois ouvrages sur Empédocle, son introduction à l'ancienne physique et puis ses deux livres sur les origines, ainsi que une traduction nouvelle des Coéphores et des Euménides aux éditions de Minuit, toujours aux éditions de Minuit. Rendez-vous, chers auditeurs, vendredi prochain en direct de Grenoble à la Maison de la Culture où les 8, 9 et 10 mai, la République des idées organise un forum sur le thème « Réinventer la démocratie », forum en partenariat duquel France Culture se trouve toute la semaine. Suite demain de la semaine justement consacrée à la démocratie, je recevrai Dominique Cardon et Nicolas Vambremer, c'est-à-dire Versac, pour parler d'Internet et de la démocratie, c'est-à-dire de démocratie numérique. À la réalisation, François Connac, assistant et collaboration Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Jennifer Murzo, Igor Kortolitsa. On est en retard, mais après tout, on a pris l'antenne en avance. France Culture, il est encore 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.